est 22h en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
24h en France.
Radio France Internationale, bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ces 30 prochaines minutes consacrées à l'actualité française.
Clotilde Dumay.
Avec d'abord à la une du journal, le ministre de l'Intérieur en déplacement à Grenoble deux jours après l'explosion d'une grenade dans un bar de la ville. Bruno Retailleau promet de retrouver l'auteur de cette attaque. Des fleurs empoisonnées en ce 14 février, jour de Saint-Valentin et des amoureux. L'UFC Que Choisir alerte sur la présence de pesticides dans les bouquets. L'assistant vocal d'Apple accusé de violer la vie privée des utilisateurs. Et puis les 40e victoires de la musique en ce moment avec la jeune génération qui partage la scène avec des icônes de la chanson française célébrées ce soir à Paris.
RFI.
Après le journal, on va parler du scandale du chlordécone aux Antilles avec le livre de Marie Baléo, Les Empoisonneurs. Elle sera au micro de Frédéric Genot. De la culture aussi avec cette exposition à Paris à la Fondation Cartier. Exposition consacrée à l'art du textile de la Colombienne Olga de Amaral. Tout cela, ce sera avant l'actualité des Outre-mer et puis un point sur la bourse à Wall Street. À Grenoble, dans le sud-est de la France, le patron du bar blessé dans l'explosion d'une grenade pense qu'il était visé. Lui et son fils détiennent déjà de lourds casiers judiciaires, selon le parquet de Lyon. L'auteur de l'attaque, lui, à la grenade, qui était cagoulé et armé d'un fusil d'assaut, est toujours recherché deux jours après l'explosion. Le ministre de l'Intérieur évoque une opération criminelle inédite, une technique de guerre. Bruno Retailleau, qui était en déplacement à Grenoble sur les lieux de l'attaque, pour présenter ses solutions pour lutter contre le banditisme et le narcotrafic, hasard du calendrier, puisque ce déplacement était déjà prévu depuis le début du mois. Et au niveau des annonces, Victorien Villaume, c'était plutôt du déjà-vu.
Ville différente, mais discours très similaire. Il y a 3 mois, c'était à Marseille que Bruno Retailleau listait ses solutions contre le narcotrafic. À Grenoble, le ministre de l'Intérieur dresse toujours le même constat dramatique.
C'est une déferlante, notamment de drogue. Aujourd'hui, un tsunami blanc même, le narcotrafic, ce sont à la fois des enfants soldats et des enfants victimes.
Et livre le même message de fermeté.
L'idée qui doit nous guider, c'est de faire du combat contre le narcotrafic et la criminalité organisée la même chose que ce que nous avons fait pour le combat contre le terrorisme, avec des résultats.
Le ministre qui a récemment annoncé sa candidature à la présidence de son parti, Les Républicains, s'affiche sur le terrain intéressé par les problèmes des Français. Bruno Retailleau rappelle qu'un texte de loi contre le narcotrafic poursuit sa navette parlementaire.
Il s'agit de reprendre le contrôle de l'espace public. Bien sûr, sur la voirie, dans les halls d'immeubles, mais aussi avec des fouilles dans les parties communes, dans les caves, pour chercher de la drogue, pour chercher des produits de contrebande, des CIA et de contrebande, pour chercher des armes.
Pour le premier flic de France, cela mettra du temps, mais l'État français obtiendra une victoire contre le narcotrafic.
Bruno Retailleau qui débute aussi sa campagne, on l'a dit, face à Laurent Wauquiez pour la présidence du Parti Les Républicains. Il était justement en meeting ce soir en Isère. Les adhérents des LR qui voteront pour leur prochain président les 17 et 18 mai prochains pour le premier tour. Mis sous pression dans l'affaire Betaram, le Premier ministre François Bayrou va rencontrer ce samedi le collectif des victimes de l'établissement dont il est question. Une enquête est en cours depuis un an sur plus d'une centaine de plaintes pour violences physiques, agressions sexuelles et viols qui auraient été commis dans ce collège-lycée entre les années 70 et 90. Un établissement fréquenté par plusieurs enfants de François Bayrou. Le chef du gouvernement est accusé notamment par la gauche d'avoir menti sur la connaissance de ces faits, mais lui assure ne pas en avoir été informé. Le ministère de l'Éducation nationale, de son côté, demande au rectorat de Bordeaux d'inspecter l'établissement. Une Saint-Valentin un peu amère pour ce 14 février, fête des amoureux, avec des bouquets de fleurs pleins de pesticides. L'UFC Que Choisir en a retrouvé dans tous ses prélèvements, d'après une enquête publiée aujourd'hui. Le magazine de protection des consommateurs évoque une mise en péril des personnes qui manipulent ces fleurs, les acheteurs, mais surtout, Simon Rosé, les premiers concernés, les fleuristes.
100% des fleurs étudiées sont contaminées. C'est la conclusion de cette étude menée par le magazine UFC Que Choisir. Sur les 15 bouquets de roses, gerbera, chrysanthème examinés, tous contiennent des traces de pesticides, jusqu'à 40%. 46 molécules différentes sur un seul et même bouquet. Des produits parfois interdits en Europe en raison de leur dangerosité, on trouve en effet des substances cancérogènes ou encore des perturbateurs endocriniens. Néanmoins, l'effet sur la santé humaine de leur présence sur des fleurs reste encore à préciser. Le gouvernement français a confié il y a 2 mois à l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, la charge de mener une étude pour y voir plus clair. Une réponse au témoignage d'une fleuriste dont la fille est morte d'une leucémie à la suite d'une exposition in utero aux pesticides présents sur les fleurs que manipulait sa mère. Le lien avait été établi par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, c'est une première. Alors que 85% des fleurs vendues en France sont importées, il n'existe aucune loi réglementant la présence de telles substances sur les bouquets. Les conclusions de l'étude de l'ANSES seront révélées l'année prochaine. En attendant, l'UFC Que Choisir réclame la mise en place d'un cadre strict sur l'usage des pesticides et l'interdiction d'importer des fleurs traitées avec des produits interdits en Europe.
Les précisions de Simon Rosé. L'assistant vocal des appareils Apple écouterait-il les utilisateurs à leur insu? La Ligue des droits de l'homme a déposé une plainte à Paris contre la marque à la pomme. Elle repose sur le témoignage d'un lanceur d'alerte qui accuse l'entreprise d'avoir violé la vie privée de ses utilisateurs. Et ce n'est pas la première fois, Benoît Narbonne, qu'un géant américain de la tech est mis en cause pour de telles pratiques.
Pour la première fois, il y a un témoignage, celui du lanceur d'alerte Thomas Le Boniek. Il travaillait en 2019 en Irlande pour un sous-traitant d'Apple en tant qu'analyste de données. Il écoute, retranscrit et trie les demandes enregistrées par l'assistant vocal. Par exemple, si un enregistrement « appel maman » est traité, un analyste va chercher le terme « maman » dans le répertoire de l'appareil pour indiquer à l'assistant la bonne procédure. L'objectif de ces corrections, améliorer les réponses de Siri. Le Boniek constate que des centaines de millions d'enregistrements sont ainsi captés à l'insu des usagers. Ils contiennent de nombreuses données personnelles, maladies, opinions politiques ou encore sexualité. Une captation de l'information d'ordre privé qui va à l'encontre de la régulation européenne sur la protection des données. C'est le sens de la plainte posée par la Ligue des droits de l'homme. Apple a réagi, affirmant ne pas utiliser les données personnelles de ses utilisateurs à des fins commerciales.
Les explications de Benoît Narbonne. Jean Castex considère n'avoir commis aucune infraction. L'ancien Premier ministre français réagit au lendemain de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. Il a été entendu au sujet de l'octroi d'aide publique à une entreprise de haute technologie fin 2017 lorsqu'il était élu local dans le sud-ouest de la France. Aucune mise en examen n'a été prononcée pour le moment. Après plusieurs plaintes en Algérie, c'est en France que l'écrivain Kamel Daoud a reçu une assignation en justice pour atteinte à la vie privée. Lors de la sortie de son dernier roman, Ouris, lauréat du prix Goncourt 2024, Sada Arban, une jeune Algérienne, s'est reconnue dans l'un des personnages du livre et elle a accusé l'auteur de lui avoir volé son histoire. Rescapée d'un massacre datant de la guerre civile, elle avait raconté ce drame personnel à sa psychiatre, qui n'est autre que l'épouse de Kamel Daoud, mais qui nie ses accusations. Lily Ravon, l'une des avocates de la plaignante, détaille le contenu de l'assignation déposée au tribunal judiciaire de Paris.
D'abord, c'est un très grand nombre de similitudes qui ont rendu Madame Saada Arban immédiatement identifiable, reconnaissable. Le fait que ces éléments sont attentatoires à sa vie privée, parce qu'il y a des éléments qui sont extrêmement intimes, comme sa tentative d'avortement, qui l'expose même à des poursuites pénales en Algérie. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la mauvaise foi dont a fait part Kamel Daoud, qui, à 3 reprises, soit directement, soit par l'entremise de sa femme, a demandé expressément à Saada Arban d'utiliser son histoire pour en faire un livre. Saada Arban a rejeté sans aucune ambiguïté cette proposition et c'est en se concentrant strictement sur le droit et rien d'autre qu'on en tire les conclusions qui sont les nôtres aujourd'hui.
Et une première audience est prévue le 7 mai prochain au tribunal judiciaire de Paris. C'est la 40e édition des Victoires de la musique ce soir, la cérémonie qui récompense les artistes de la chanson française. Ils sont 18 nommés pour 9 catégories. Et pour cette 40e édition, c'est une icône de la chanson française, Alain Souchon, 80 ans, qui préside et qui a donc ouvert la cérémonie tout à l'heure.
Soif d'idéal, je déclare ouverte la 40e cérémonie des Victoires de la musique.
La cérémonie que vous suivez hein, pour RFI, Olivier Roger, bonsoir.
Bonsoir.
Et plusieurs récompenses ont donc déjà été attribuées à Olivier.
Oui, les Victoires de la musique ont comme avantage de mettre en lumière les nouveaux talents et dans la catégorie de la révélation masculine de l'année, c'est Pierre Garnier qui a remporté le trophée pour son titre « Ce qu'on était ». On l'écoute.
Cette victoire, elle est à moi, mais elle est à vous, elle est à tout le monde, parce que c'est grâce à vous surtout, qui m'accompagnez depuis le début, le public, que je peux faire des concerts, que je peux vivre des moments comme ça. Donc, juste merci, je suis trop content. Merci, merci à tous.
Pierre Garnier, 22 ans, chanteur, compositeur, interprète. 2024 était sa première année en tant qu'artiste professionnel et il a littéralement explosé dans le cœur du public. Eddie Mitchell, lui, a conquis les foules il y a de cela 6 décennies. Monsieur Eddie a reçu une victoire d'honneur pour sa carrière, de même que Sylvie Vartan, une autre icône de la musique française. Et c'est son fils, David Hallyday, le fils du grand Johnny, qui lui a remis le trophée.
En fait, il ne suffit pas d'être une belle artiste, il faut aussi être une belle personne. Chaque chanson que tu as chantée ou dansée porte en elle une part de ton âme.
Notez aussi que l'artiste féminine de l'année récompense Zao de Sagazan, la jeune autrice et compositrice, avait remporté l'an dernier 4 victoires avec son album La Symphonie des Éclairs.
Merci beaucoup Olivier Roger. Voilà, les 40e victoires de la musique donc qui se poursuivent.
Pierre Garnier qu'on écoute.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà.
Voilà, Pierre Garnier qui vient à l'instant d'ailleurs de remporter la chanson de l'année donc pour cette 40e édition des Victoires de la Musique. Un peu de sport pour terminer avec une 2e médaille d'or en 2 courses pour la France au championnat du monde de biathlon. Justine Brezaz-Boucher qui s'est imposée sur le sprint. C'est son 2e titre mondial en individuel. Et puis en football, le match s'est emballé ce soir dans la 2e mi-temps entre Brest et Auxerre en Ligue 1. À domicile, les Brestois devront se contenter tout de même d'un match nul de partout. Voilà, on reste ensemble encore pour une 20aine de minutes sur RFI.
24 heures en France. Clotilde Dumais.
Les empoisonneurs, c'est le titre du livre de Marie Baléo sur les coulisses d'un scandale sanitaire dont on mesure encore mal les conséquences. L'utilisation aux Antilles pendant 20 ans du chlordécone, un pesticide extrêmement toxique. Marie Baléo est au micro de Frédéric Genoux.
Le chlordécone, c'est un pesticide très toxique et très persistant dans l'environnement qui a été utilisé pendant un petit peu plus de 20 ans, entre 1972 et 1993, en Martinique et en Guadeloupe, sur les bananeraies, pour venir à bout d'un petit ravageur qui s'appelait le charançon du bananier et qui, à l'époque, causait des dommages extrêmement importants sur les cultures. Et on s'est aperçu très vite, en réalité, dès l'invention de la molécule, qu'elle était très toxique, qu'elle avait des effets graves sur la santé des animaux et des humains. Et puis, au bout de quelques années d'utilisation aux Antilles, on s'est rendu compte aussi que l'environnement avait été largement contaminé. La molécule a été mise au point dans un laboratoire américain en 1950 et dès 1960, il s'est agi de la commercialiser et à ce moment-là, le fabricant a fait réaliser des études et c'est là qu'il s'est aperçu que le chlordécone déclenchait des tumeurs du foie, des tremblements, des problèmes de fertilité chez les animaux de laboratoire et même au bout d'un certain dosage, au bout de 6 mois, tous les animaux étaient morts. Donc on s'est rendu compte rapidement de la toxicité et pour l'environnement, il y a eu de premières études en Guadeloupe à partir de 77 et 80, donc on a vu très vite aussi.
Alors, il a été interdit aux États-Unis en 1978. Qu'est-ce qui fait qu'en France, il a fallu attendre aussi longtemps?
C'est principalement un objectif de protection des intérêts économiques de la filière banane. L'État français a cherché à garder aussi longtemps que possible ce produit en usage parce que c'était présenté par les planteurs comme étant le seul produit capable de venir à bout de ce charançon. Le discours des planteurs, c'était de dire si vous nous privez du chlordécone, c'est toute la filière qui va sombrer et avec elle, des milliers d'emplois directs et indirects. Et puis derrière, c'est toute la paix sociale aux Antilles qui va s'effondrer. L'État s'est laissé convaincre. L'interdiction a pris beaucoup plus de temps à venir en France qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, en France, ça n'a été interdit en 1990 que parce que l'Europe a dit à partir de maintenant, c'est moi qui reprends la main sur les molécules autorisées dans les États membres et le chlordécone n'en fera pas partie. Mais sinon, on ne sait pas combien de temps encore ça aurait pu être utilisé.
Donc c'est la peur d'un embrasement social. Est-ce que ça aurait pu se passer en métropole ou est-ce que c'est parce que c'est autant antique?
Oui, je pense qu'il y a de ça. Les intérêts, la filière banane a toujours cultivé des liens très étroits avec les gouvernements de gauche comme de droite. C'est lié aussi à l'histoire des Antilles puisque la filière banane, elle est dominée par une communauté qui s'appelle la communauté Béqué, qui sont les descendants des blancs créoles arrivés en Martinique, enfin les colons arrivés en Martinique entre le 17e et le 19e siècle, en Guadeloupe aussi. Et toujours cette communauté, puis ensuite donc les groupements de planteurs Béqué ont eu des relations extrêmement proches, donc avec des mini ministres, avec même des chefs d'État. Et donc, ça fait qu'on a toujours pris en compte dans ce dossier chlordécone ses intérêts économiques avant les intérêts sanitaires et environnementaux. Et puis, il y a aussi un élément plus simple qui est que sur les cultures tropicales, on avait tendance à utiliser des pesticides beaucoup plus toxiques et beaucoup plus forts que sur les cultures tempérées. Et il y en avait aussi beaucoup plus qui étaient utilisés en même temps. Donc, je pense que ça n'aurait pas pu se passer dans les mêmes conditions dans l'Hexagone, mais c'est aussi parce qu'il y a une sorte c'est le sous-titre du livre, mais de mépris de la France pour ces territoires d'outre-mer et notamment pour les Antilles.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ?
Depuis l'interdiction du chlordécone, dans le rapport au territoire d'outre-mer.
Bon, je repense à Emmanuel Macron qui, en 2018, a dit que l'État devait prendre sa part de responsabilité.
Oui, mais 2018, c'est aussi l'année où il s'est permis de répéter devant des élus d'outre-mer que le chlordécone était bas cancérigène, alors qu'il y avait une étude parfaitement légitime qui avait été publiée il y a pratiquement 10 ans déjà, qui établissait exactement le contraire. Et Emmanuel Macron, qui est toujours très précis sur ses dossiers, le savait pertinemment. Donc je pense que la réponse est dans votre question.
Et dans le même temps, il y a un non-lieu qui a été prononcé en janvier 2023, après une action en justice pour empoisonnement.
Oui, et c'est une grande déception pour toutes les parties à ce procès, parce que c'est l'issue de plus de 15 ans de procédure judiciaire. Et donc, pour empoisonnement, effectivement, et mise en danger de la vie d'autrui, la procédure a échoué en raison principalement d'absence de preuves et de prescription, les deux étant dus au fait que les faits remontent à 30, parfois même 50 ans. Et c'est évidemment très, très difficile à entendre pour les Antillais. Aujourd'hui, il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité qui a visé à remettre en cause la définition de l'empoisonnement, parce que depuis le sang contaminé, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit l'empoisonnement, c'est quand on a l'intention de donner la mort. Et évidemment, ça peut pas s'appliquer tel quel dans le dossier du chlordécone, mais malheureusement, cette QPC a échoué et ne sera pas soumise au Conseil constitutionnel.
Ni a priori, il est donc quasi illusoire d'imaginer une affaire en justice qui aille à terme.
Moi, c'est ma conviction depuis le départ. Je pense que on s'achemine vers une absence totale de réponse dans les tribunaux, en tout cas. Et donc, je pense que la réparation, si elle doit venir, elle doit venir d'une parole forte de l'État, qui, pour l'instant, les gouvernements successifs se sont bornés à parler de responsabilité partielle, à toujours rejeter une partie de la faute sur les planteurs, ce qui n'est pas inexact, mais ce qui est aussi extrêmement frustrant et sonne comme un aveu de on sait ce qu'on a fait, mais on n'a pas envie de prendre la responsabilité, on ne veut plus entendre parler du dossier, et ça, c'est assez terrible.
Parce que dans le même temps, on n'a pas fini de mesurer les effets de la contamination.
Oui, exactement. Déjà, on n'a pas entièrement cartographié les sols pollués, donc on a une idée des estimations du degré de pollution des sols. Mais là où on a le plus inconnu, c'est sur la santé, parce qu'il y a des études qui ont été menées, notamment sur une cohorte d'un millier d'enfants et de leur mère. On a vu chez les enfants très tôt, dès la naissance, d'énormes problèmes de développement intellectuel, des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire, de tremblements. C'est vraiment des choses très frappantes. Et on ne sait pas du tout ce que ça va donner quand ils seront adultes. On ne sait pas non plus du tout ce que ça va donner sur les générations futures, parce que le chlordécone est un perturbateur endocrinien, donc avec des effets qui peuvent se transmettre sur plusieurs générations. Et donc, on a vraiment une énorme inconnue sur les effets de santé.
Et comme vous l'expliquez, une molécule a des effets chimiques, deux molécules a des effets qu'on ne mesure pas.
Ça, c'est une énorme inconnue dont on parle assez peu. Ça s'appelle l'effet cocktail. C'est l'idée que les interactions entre deux molécules, on les connaît mal. Surtout que, je vous le disais, donc il y a beaucoup de pesticides qui ont été utilisés sur les cultures tropicales. Et donc, en l'occurrence, il s'agit d'analyser les interactions potentielles entre des dizaines de molécules différentes, ce que personne ne peut faire et ne fait aujourd'hui. On pourrait peut-être le faire avec de l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout, et donc on est vraiment face à une énorme inconnue.
Il y a un vrai sentiment de gâchis, d'autant plus que vous le dites pour le charançon des bananiers. Finalement, on a trouvé une parade qui n'est pas chimique.
Oui, et on a trouvé cette parade très rapidement. C'est un piège à phéromones, donc c'est une petite hormone qui attire le charançon. Il tombe dans un seau et il est capturé. C'est très basique, c'est pas du tout toxique ni chimique, et ça a été mis au point à partir de 93-94, donc très rapidement après l'interdiction. Et ensuite, ça a été généralisé à partir de 97-18, donc très vite aussi.
La Marie Baléo, interrogée donc par Frédéric Genot pour ce livre, Les empoisonneurs, chlordécone, histoire d'un mépris français, paru chez Grasset. Vous pouvez écouter l'intégralité de cet entretien sur le site internet de RFI.
RFI à Paris, 89 FM.
À Paris, toujours, donc, la Fondation Cartier présente la première rétrospective en Europe de la grande artiste colombienne Olga de Amaral. L'exposition rassemble près de 80 œuvres de cette figure incontournable de l'art du textile des années 60 à aujourd'hui. On peut y voir l'évolution de l'artiste, de ses tissages influencés par les textiles anciens de son pays aux sculptures en trois dimensions. découverte de l'exposition avec Muriel Malouf.
Olga de Amaral, avec notamment l'américaine Sheila X ou la polonaise Magdalena Abakanowicz, a contribué dans les années 60 à élever l'art du textile considéré comme mineur jusque-là, car dévolu aux femmes, au rang d'art noble. En fil de lin, coton, crin, métal ou or, les tissages d'Olga de Amaral sont des sculptures de couleurs, parfois monumentales et où domine la géométrie. Marie Pérennes, commissaire.
Olga est colombienne, elle vient des Andes, là où il y a une tradition textile ancestrale très forte. Et évidemment, elle a vu les sites archéologiques importants. Il y a un musée de l'or à Bogota dans lequel il y a des vestiges, notamment de bijoux, voilà, tous très géométriques, des triangles, des carrés, des spirales, des formes qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre d'Olga. Et puis, la deuxième grande influence, je dirais que c'est sans aucun doute le modernisme et l'héritage du Bauhaus. Donc elle étudie selon cette philosophie-là, hein, dans une esthétique qui se veut très formellement construite selon une grille et des motifs géométriques extrêmement prégnants. Et ça, on le retrouve beaucoup aussi dans son travail.
La spirale est aussi un motif récurrent chez l'artiste.
La spirale, elle parle aussi de l'infini cycle de la vie qui recommence éternellement, des perspectives temporelles qui sont très chères à Olga. Hein, et c'est vrai que le temps est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son travail, hein, le temps long, celui du tissage, bien entendu, sur le métier à tisser, qui est un temps infini, propice à la méditation. Donc on a pensé le sous-sol selon ce cycle, en suivant cette spirale.
Un sous-sol à la Fondation Cartier où s'offre toute la richesse du travail d'Olga de Amaral. À ces trames tissées viennent se superposer le papier de riz et plus tard la feuille d'or, comme dans cette œuvre qui fait partie de la série Alchimias ou Alchimie.
C'est effectivement une œuvre pour laquelle Olga utilise de la feuille d'or. C'est l'or de l'art précolombien, très riche, mais c'est aussi l'or pillé par les colons espagnols lorsqu'ils arrivent en Colombie. Puis plus tard, c'est l'or des autels des églises catholiques qu'elle visite lorsqu'elle est enfant avec sa mère. Donc au début, elle utilise la feuille d'or pour souligner les coutures dans ses œuvres. Et puis très vite, l'or va essaimer, va prendre toute la surface de l'œuvre. Et c'est vraiment chez Olga cette recherche de la lumière.
La Fondation Cartier déploie ainsi l'univers textile aérien et puissant d'Olga de Amaral dans une scénographie subtile de l'architecte Lina Rotmé. Une exposition qui invite à la méditation entre couleur et matière.
L'exposition à découvrir donc à Paris à la Fondation Cartier jusqu'au 16 mars 2025. Il est 9h22. À Nouméa, on est déjà samedi en Nouvelle-Calédonie.
Le journal des Outre-mer.
L'actualité des Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, donc les partis loyalistes s'insurgent contre une déclaration du ministre Manuel Valls citée par le quotidien Le Monde. Vous y revenez dans votre journal, Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Déclaration selon laquelle, je cite, « la trajectoire va d'une souveraineté partagée à une souveraineté pleine et entière », fin de citation, ce qui pourrait laisser à penser que l'ancien Premier ministre et actuel ministre des Outre-mer serait in fine favorable à l'indépendance. Anne-Claire Lévesque.
Le ministre des Outre-mer expose les possibilités offertes par l'accord de Nouméa, une Calédonie française avec sa large autonomie, sa souveraineté partagée avec la France, ce que le territoire vit déjà avec ses larges compétences, ou bien une Calédonie indépendante hors de la France, mais aussi les schémas qui pourraient être envisagés entre les deux. Ce que dénoncent le Rassemblement et les loyalistes, c'est le fait qu'un représentant de l'État, un ministre en fonction, acte en la mentionnant publiquement la possibilité d'une souveraineté pleine et entière en dépit des non aux trois référendums. Dans le même article du Monde, Manuel Valls précise qu'il s'agit de préparer un compromis qu'il souhaite définitif et qu'il a proposé aux élus, je cite, « une souveraineté avec la France, la démocratie face à la violence et la citoyenneté calédonienne ». Et pour rappel également, dans son livre intitulé « Pas une goutte de sang français » paru en 2021, l'actuel ministre des Outre-mer écrivait alors sans ambiguïté, je cite, « je ne souhaite pas l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ». Alors pour autant, loyalistes et rassemblements veulent un positionnement clair. Sur X, Nicolas Metz Metzdorf a donné ce matin son sentiment. Si ses propos ne sont pas rectifiés, écrit le député, le prochain voyage du ministre à Nouméa risque de tourner court. Fin de citation. Manuel Valls, partisan de la méthode mise en œuvre en 1988 par Michel Rocard, chercherait ainsi à poser les bases d'un processus similaire. Chacun expose ses positions antagonistes pour ensuite travailler à un compromis. Mais ce qui impliquerait pour chaque camp une part de renoncement à son idéal. Et dans le contexte actuel de radicalisation des positions et d'improbable trilatéral, pas sûr que le compromis trouve beaucoup d'espace.
Le fléau est partout, y compris dans le minuscule archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, et c'est un peu moins de 6000 habitants. On parle ici du trafic de stupéfiants, en l'occurrence la cocaïne, et de cet homme interpellé mercredi lors d'une vaste opération des forces de l'ordre. Le 23 décembre dernier, déjà plus d'un kilo de poudre blanche avait été saisi à l'arrivée du ferry venant de Terre-Neuve. Philippe Sens.
C'est d'abord le logement d'un suspect qui a été perquisitionné mercredi matin par les gendarmes de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le quartier des Graves. Il y a eu aussi une visite dans ce même quartier de son chantier en cours de travaux pour un futur logement. Puis son lieu de travail, la caisse de prévoyance sociale, ainsi qu'un hangar de celle-ci où des scellés ont d'ailleurs été posés par les enquêteurs. Perquisitionné aussi des boxes de logement louées par la CPS pour des salariés, des lieux où le suspect avait accès dans le cadre de son travail. Au total, sur cette journée, une dizaine de gendarmes, dont une équipe cynophile, a été mobilisé. L'homme interpellé, celui qui aurait prêté le véhicule au conducteur arrêté le 23 décembre dernier, avec un kilo de cocaïne à l'arrivée du ferry de Fortune sur Saint-Pierre. Rappelons que même dans le cadre d'un placement en garde à vue, il reste bien évidemment présumé innocent. Contacté, le procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon, Yves Courroux, n'a pas souhaité apporter des réponses à nos questions de par l'instruction et pour les besoins de l'enquête en cours.
Stop Drive, autrement dit, et en bon français, arrêter de conduire, c'est le nom de l'opération de grande ampleur lancée ce vendredi à l'île de la Réunion. Opération visant au remplacement des tristement célèbres airbags Takata qui ont déjà tué 2 personnes dans le département de l'océan Indien. Priscilla Etève.
Le message à retenir ce soir, c'est qu'il ne faut absolument plus rouler avec les véhicules équipés d'airbags Takata. Les 35 000 courriers recommandés pour cette campagne de rappel sont déjà partis et les automobilistes concernés devraient les recevoir d'ici la semaine prochaine. Ils doivent impérativement prendre rendez-vous au plus vite avec leur concessionnaire pour changer leur airbag qui présente un risque de blessure grave, voire mortelle en cas d'accident. Dans cette opération Stop Drive, les constructeurs, les importateurs et les concessionnaires ont mis en place un programme inédit afin donc de traiter en priorité ces voitures ciblées. Les opérations de maintenance dites non urgentes vont être déprogrammées pour programmer justement plus de planning des traitements d'airbag Takata par jour. Une intervention qui ne dure en tout et pour tout que 20 minutes. Il s'agit aujourd'hui d'une problématique de sécurité publique qui concerne un peu moins de 10% du parc automobile local. Le syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion se donne 3 à 4 mois pour régler cette situation qui va à coup sûr générer une sacrée gêne auprès des 35 000 usagers de la route qui devront se tourner vers les loueurs de voitures.
Fin de cette édition. Bonne soirée, bon week-end.
Et à vous aussi Benoît Ferrand, merci beaucoup. Voilà pour ce 24 heures en France. Je remercie Fabrice Viollet à la réalisation. Ce soir, Loïc Bussière à la rédaction en chef. Restez sur RFI dans un instant. On passe à l'actualité africaine pour évoquer notamment la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le sud Kivu. À tout de suite. Mais d'abord la bourse avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones chute de 166 points et clôture la semaine à 42 545. Le Nasdaq s'offre encore 81 points tout de même et revient à 20 027. Cette semaine, Wall Street a fait face à plusieurs surprises. 2 mauvaises surprises sur le front de l'inflation, montrant que les hausses de prix à la consommation, tout comme les hausses de prix de gros, dépasse les prévisions, confirmant la crainte d'une résilience de l'inflation aux États-Unis, en tout cas au mois de janvier. Et aujourd'hui, une surprise à caractère au contraire plutôt déflationniste. Les ventes de détail aux États-Unis en janvier chutent de 0,9%. Cette surprise-là fait retomber à 4,48 le rendement du T-bond à 10 ans, ce qui marginalement soutient les actions. On note tout de même une belle hausse du cours d'Airbnb. Le gain est de près de 15%. Après la publication de performances trimestrielles nettement meilleures que prévues, belle hausse également de Dell. La société d'équipement informatique aurait remporté un contrat de 5 milliards de dollars pour la fourniture de serveurs à xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Le baril de pétrole américain recule de près d'1% à un peu moins de 71 dollars. Le recul des ventes de détail aux États-Unis aide l'euro à remonter jusqu'à 1,0490. Aujourd'hui, l'indice Dow Jones recule de 0,4%, le Nasdaq se hisse de 0,4% de plus. Les cotations reprendront mardi, car lundi est un jour férié aux États-Unis.
L'épopée des musiques noires.
Après New York et Los Angeles, l'auteur Philippe Rossa, passionné par l'histoire du rock, nous présente les hauts lieux de Chicago. On y redécouvre un passé glorieux, celui des pionniers du jazz, du blues, du gospel, de la soul et même de la house music. Avec son livre Streets of Chicago, il met en lumière des bâtisses, des rues et des avenues arpentées pendant des décennies par les témoins et acteurs de l'épopée des musiques noires. Rendez-vous ce samedi avec Joe Farmer à 13h30.